Chapitre 3, la fertilisation des cultures. Nous allons commencer un nouveau chapitre et il est nécessaire d'abord de comprendre le raisonnement de la fertilisation, c'est-à-dire un peu qu'est-ce que doit penser et organiser l'agriculteur avant d'acheter des engrais et de le mettre sur une parcelle. L'objectif d'un agriculteur, évidemment, c'est de produire le maximum de fourrage, de maïs en silage, ou d'herbe, ou de pâture, donc sur une parcelle. Avec la limite, évidemment, en restant raisonnable sur les intrants, c'est-à-dire sur les achats, sinon ça va lui coûter trop cher, et aussi en respectant l'environnement, pour éviter les pollutions, notamment avec les engrais azotés. Mais aussi, avant de décider de mettre des engrais ou des fumiers, il faut d'abord faire tourner le sol à plein régime. Par exemple, maintenir une bonne structure. Remplir le réservoir du complexe argilo-humique. Et aussi favoriser la vie biologique et le cycle de la matière organique. Si l'agriculteur ne fait pas ces trois points, eh bien, en fait, la fertilisation aura beaucoup moins d'effet. Il y aura du lessivage, il y aura beaucoup plus de problèmes et en fait, les engrais que l'agriculteur va acheter ne seront pas bien valorisés. Donc d'abord, s'occuper d'abord du sol avant de s'occuper de la fertilisation. Mais quand les capacités du sol ne sont pas suffisantes pour fournir tous les éléments fertilisants à la plante, l'agriculteur, normalement, eh bien, il va apporter des engrais organiques, comme le fumier et le lisier, ou des engrais minéraux, les engrais minéraux comme l'ammonitrate ou l'urée, ce que l'on peut acheter dans les sacs, pour augmenter sa production. Pour éviter la perte de rendement, le gaspillage économique, mais aussi la pollution, il faut tenir compte de 5 points qui sont assez importants. D'abord, il faut tenir compte du potentiel du sol. Tous les sols n'ont pas le même potentiel. Ça veut dire qu'avec tous les sols, toutes les parcelles d'agriculteurs, eh bien, on ne peut pas faire le même rendement. On a des bonnes et des mauvaises parcelles. Et ce n'est pas en faisant de la surfertilisation qu'on va augmenter les rendements à l'infini. Ça se saurait si on mettait 3 tonnes d'engrais par an et qu'on s'en tirerait avec 20 tonnes de matière sèche d'ensilage. Non, au bout d'un moment, on atteint une limite. Il faut tenir compte aussi des objectifs de rendement. Vous avez des agriculteurs qui ont peu de surface, par exemple, et qui cherchent à maximiser, donc avoir le maximum de rendement, et puis d'autres qui ont un peu plus de surface et qui jouent sur eh bien, un peu le potentiel du sol. Donc en fonction du système, vous avez des prairies près de la bergerie qui vont être très productives et des prairies un peu éloignées qui vont être un peu moins productives. Et pourtant, le potentiel du sol est à peu près le même. Ça dépend aussi de la disponibilité des éléments dans le sol. Ce n'est pas parce que je mets de l'engrais ou du fumier que automatiquement la plante va pouvoir le récupérer. On va avoir notamment de l'éloignement, des formes indigestes. Et donc du coup, tout ce que je mets dans le sol n'est pas accessible à la plante. Ça va dépendre aussi de la rotation, de la culture précédente et de la culture suivante. Par exemple pour le maïs, qu'on va dire qu'il est une plante exigeante, ça veut dire qu'il n'aime pas avoir faim, d'azote ou de potasse, on va mettre un paquet d'engrais ou de fumier sur le maïs. Et en fait, après, sur le régras suivant, eh bien, on va en mettre un peu moins, parce qu'on considère que tout ce qu'on a mis sur le maïs ne l'a pas tout mangé, et qu'il en reste un peu sur le régras. Donc sur ma culture de régras, eh bien, je vais en mettre un peu moins. Voilà, donc je vais tenir compte aussi de la rotation. Et enfin, ça va dépendre des aléas climatiques. La pluie peut lessiver le sol. Moi, je mets de l'engrais. S'il pleut pendant 3 semaines, eh ben, cet engrais il va disparaître au fond du sol et ma plante n'en aura pas besoin. Il va falloir que je réagisse. En tenant compte de tout ça, on pratique ce qu'on appelle la méthode des bilans. La méthode des bilans, ça veut dire que je ne mets que ce que la plante a besoin en fonction du stock dans le sol. Donc, c'est le stock du sol que je connais, les besoins de la plante que je connais, et la différence entre les deux, stock moins besoin, c'est ce que moi je dois apporter chaque année pour que ma plante puisse pousser. Avant d'aborder l'azote, phosphore, potasse, etc., il est intéressant de faire des petits calculs pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un engrais et de quoi on parle. vous avez un tableau avec les 5 éléments fertilisants qui sont importants, azote, phosphore, potasse, calcium et magnésium. Les autres éléments sont besoin en petite quantité, 1 kg par hectare et par an, et on ne voit pas comment on pourrait demander à un agriculteur d'amener 500 g ou 200 g par hectare, ce n'est pas possible. Donc on ne s'occupe que de azote, phosphore, potasse, calcium et magnésium. Un engrais, quand on regarde sa composition sur une étiquette, on peut lire par exemple que l'urée contient 46% d'azote. Ok, 46% d'azote, mais le reste c'est quoi? Eh bien le reste, c'est, si vous voyez la formule, le reste c'est du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc il y a 46% d'azote intéressant et 54% de reste qui n'est pas vraiment intéressant. Le carbone, il y en a plein dans le sol, dans le fumier, et l'oxygène et l'hydrogène, il y en a dans l'eau. Donc du coup, l'agriculteur, ce n'est pas ça qu'il achète dans l'engrais. Mais on ne peut pas faire autrement. La formule de l'urée, elle est comme ça. C'est exactement pareil pour un engrais qui s'appelle le 1846, qui contient 18% d'azote et 46% de phosphore. 18 plus 46, ça fait 64. Il reste donc 46% de pas trop intéressant, c'est-à-dire d'oxygène et d'hydrogène. Pareil pour le 3x15. Et pour un fumier, c'est encore pire, pour un fumier où on n'a que 0,6 plus 0,2 plus 1%, c'est-à-dire à peine 2% de matière NPK intéressante. Quand on parle d'un engrais, on parle souvent d'un engrais qui s'appellera toujours NPK. C'est toujours dans cet ordre, azote, phosphore, potasse. Évidemment, il n'existe pas d'engrais à 100%, c'est-à-dire 100% de N, 100% de P. Il y a toujours autre chose. Et puis quand on parle d'unité fertilisante, c'est ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans l'ammonitrate, on dit qu'il y a 46 unités fertilisantes dans 100 kg. Sinon, petit calcul, combien ça fait? Je vous laisse découvrir les 3 exercices. Un premier exercice qui est sur l'azote, juste pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que quand on épand, par exemple, 350 kg, etc. Voilà. Donc, dans 100 kg d'urée, j'ai 46 unités d'azote. Donc, quelle est la quantité d'urée pour avoir 100 unités d'azote? Eh bien, je fais 100 divisé par 46 égale 217 kg. Il me faut donc 217 kg d'urée pour mettre 100 unités d'azote. Voilà le petit calcul. Et donc, je vous laisse regarder l'exercice 2 et l'exercice 3 qui est un peu plus complet. D'accord? Vous avez les corrections. Essayez de le faire d'abord sans le cours et puis après, regardez un peu la correction. Bon travail !